C'est vraiment un roman sur l'après-pouvoir et sur la guerre que représente à la fois le pouvoir politique, mais aussi toutes les relations entre les hommes et les femmes aujourd'hui, la guerre dans le couple. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai voulu saisir plutôt dans toute sa vulnérabilité, donc cette phase de l'après-Élysée, plutôt que de raconter les coulisses du pouvoir, parce qu'il me semblait que c'était un thème qui avait été inexploré.
Mais ça parle quand même du pouvoir aussi, le fait de l'avoir perdu, parce que c'est là qu'on mesure tout ce que le pouvoir représentait. Et cette guerre par d'autres moyens, au début on se dit, ah bah oui, c'est la guerre électorale, c'est la guerre politique. Et puis on se rend compte au fil des histoires, des intrigues et des liens qui se nouent, qu'en fait, la guerre par d'autres moyens, elle est partout. Elle est dans le couple, elle est dans le sexe, elle est dans les rapports hommes-femmes, mais aussi les rapports au travail. Et on se dit, tiens, finalement, en fait, l'être humain, il a besoin d'être en guerre tout le temps, peut-être. Est-ce que c'est ça qui le détermine, qui conditionne tous nos rapports?
Bah c'est quand même, oui, c'est la conflictualité. On est tous en guerre contre nous-mêmes. Et puis dans les rapports humains, enfin, on le voit quand même aujourd'hui, il y a une forme de brutalité, de violence dans la société. Le livre parle aussi de la guerre sociale, selon votre position. Quand vous êtes précaire socialement ou au contraire issu des sphères de pouvoir, vous n'avez absolument pas la même place. Donc on voit les personnages à différents niveaux de pouvoir tenter de s'imposer dans une société toujours plus compétitive.
Alors ce personnage de Dan Lehman, il est multiple. On sent que quand même vous êtes très indulgente avec lui, avec ses failles. Il a l'occasion de pouvoir s'épancher à différents moments et on essaie de se dire que finalement il était assez sincère au départ dans sa démarche politique. Il lui est arrivé toute une série de choses. Il a changé de femme, il a été soutenu, puis il a été lâché, puis il a dû faire quelques compromis. Et c'est vrai qu'on essaye, nous surtout en Belgique, on suit beaucoup la politique française, on essaye de trouver quelles ont été les inspirations. On se dit qu'il y a pas mal de présidents dans ce président-là.
Oui, alors c'est vrai que c'est pas un roman à clé, mais c'est un roman qui est nourri à la fois de rencontres, d'observations, parce qu'il fallait quand même composer un président de la République crédible, ne serait-ce que dans les moments où il parle justement de son rapport à la politique, de cette passion aussi pour la politique. On l'oublie, mais c'est quand même un métier d'engagement, de conviction. Donc quand tout ça s'arrête, qu'est-ce qui se passe? C'est le vertige, le vide existentiel, l'ennui. Et donc c'était aussi une autre facette de ces hommes politiques que j'avais envie d'explorer.
C'est un roman de la chute où il se rend compte qu'en fait le pouvoir change les rapports avec les autres et de façon irréversible, et qu'il les change avant, quand il y a recherche du pouvoir, forcément on est obligé de mettre de côté certaines personnes, d'en privilégier d'autres. Pendant l'exercice du pouvoir, il y a une extrême solitude, et ça c'est un des thèmes qui va traverser tout votre livre. Et puis quand on perd le pouvoir, toutes ces mêmes personnes qui étaient là, en fait, elles sont plus là.
Oui, c'est très juste, le pouvoir c'est vraiment un fluide, hein. Tous les hommes politiques vous le disent, et c'est une drogue aussi, et la politique. Et quand vous êtes président et que vous entrez dans une pièce, toutes les relations avec les autres changent. Tout d'un coup, tous les regards sont focalisés sur vous, et c'est ce que raconte Dan Lehman. C'est comment on vit après avoir été au centre des choses de cette façon, avec autant d'acuité, d'intensité. Qu'est-ce qu'on devient après le pouvoir? Alors évidemment, il y a quand même toujours un entourage, des conseillers, là, que je décris dans le roman, les avocats qui sont présents, parce que quand le livre s'ouvre, il est en plus menacé par des affaires judiciaires. Mais on voit évidemment que les gens changent. Les seuls peut-être qui ne changent pas, avec lesquels il est vraiment lui-même, c'est sa première femme, Marianne, qui est une écrivaine de 58 ans, qu'il regrette d'avoir quittée. Ce sont les trois enfants qu'il a eus avec cette femme. Et puis, c'est sa petite fille de 3 ans, Anna, qu'il a eue avec sa nouvelle femme et dont il est extrêmement proche.
Et vous lui faites dire à lui, je pense, à un moment donné aussi, la politique est l'ennemi du couple. Et c'est vrai que là, on retrouve des thèmes que vous avez déjà abordés, Karine Thuil, dans d'autres romans, une forme de littérature du désamour. Qu'est-ce qui fait qu'un couple tient, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il se délite? Et ici, on se dit que c'est pratiquement impossible, en fait, pour un couple de tenir à l'épreuve du pouvoir.
Oui, et c'est ce que raconte notamment Marianne. Elle dit qu'elle a permis l'accession de son mari au pouvoir et qu'elle a le sentiment d'avoir été écartée, évincée. Et elle raconte comment un homme de pouvoir, évidemment, électrise, fascine, séduit presque malgré lui. Donc il y a le rapport aux femmes, à l'entourage, qui évidemment change complètement la donne.
Ça change, et ce qui change complètement la donne, parce que c'est un roman contemporain, c'est qu'on est dans une ère post-MeToo. Alors on va voir ce que tout tous ces hommes de pouvoir. Alors il y a les hommes politiques, mais on va s'approcher aussi du monde du cinéma. Ce que tous ces hommes ont intégré de ce mouvement, mais qui est une intégration assez égoïste finalement et calculée, de se dire ah attention, il y a eu MeToo, ça veut dire que je dois agir de telle ou telle façon, et c'est pas du tout une remise en question de se dire on ne peut plus traiter les femmes de telle façon, c'est plutôt se dire comment je vais faire pour ne pas avoir une plainte.
Oui, c'est ça, je montre comment certains ont complètement accepté les nouveaux codes amoureux, notamment après MeToo, et d'autres ont compris qu'il fallait un peu composer avec l'air du temps. Mais je crois aussi que c'est le rôle du roman de montrer parfois, de dévoiler les hypocrisies sociales, de montrer le réel tel qu'il est. Et j'ai aimé travailler sur ce texte, parce que j'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes en leur demandant de me dire leur véritable ressenti. Et c'est vrai que ce qui revenait souvent aussi, c'est que chez les hommes, et notamment des hommes qui sont à ce genre de poste, il y a aussi une peur de mal agir, une peur d'avoir un comportement qui soit mal interprété. Donc j'ai voulu aussi me mettre dans la peau de ces hommes, notamment politiques.
Roman qui décrit le réel, vous le dites, ça veut dire quoi que vous vous êtes immiscé dans les coulisses de l'Élysée? Comment est-ce que vous avez réalisé tous ces éléments qui effectivement décrivent très bien ce qui se passe, ce qu'on ne voit pas finalement? Ouais. Comment vous l'avez...
D'abord, j'ai eu souvent l'occasion en 20 ans de carrière de rencontrer des hommes politiques et notamment voilà, d'anciens ministres, des chefs d'État. Et quand j'ai commencé à écrire, je travaillais sur un autre livre, j'ai par hasard rencontré d'anciens présidents de la République. Et évidemment, je ne dirai pas qui. Donc c'est à la fois le fruit d'une observation, mais après j'ai rencontré beaucoup de conseillers politiques ou de directeurs de cabinet, d'anciens ministres, donc des gens qui étaient vraiment au cœur du pouvoir et qui ont accepté de me parler. Et c'est vrai que, bon, depuis Les Choses Humaines, j'ai la chance de pouvoir rencontrer des gens qui acceptent de se confier à moi, en sachant que je vais en faire un roman, mais qui va aussi décrire la complexité de la société, parce que je cherche absolument pas justement à être binaire ou à juger les êtres que je décris, mais je crois que j'ai même une certaine tendresse pour tous ces personnages.
Et on le sent très fort, hein. Mais vous parlez de votre livre Les Choses Humaines qui était adapté au cinéma, et à un moment donné il y a le livre de Marianne, donc l'ex-femme de Dan, qui est adapté au cinéma, et elle va très mal le vivre, cette adaptation, et on se dit tiens, peut-être que là il y a l'autrice qui nous parle et qui nous dit ça a l'air d'être la consécration en fait d'être adapté au cinéma, mais c'est aussi une dépossession.
Oui, bien sûr. Alors moi, ça s'est extrêmement bien passé avec Yvan Attal, parce qu'il est resté assez fidèle au texte. Mais oui, ça peut être une expérience compliquée, pas tant pour la dépossession que pour la question de la place de la littérature et des auteurs dans l'économie du cinéma. Finalement, le livre n'est qu'un produit qui va servir de support au scénario, qui lui-même n'est qu'un support pour un réalisateur, pour son film. Donc c'est vrai qu'il y a une redistribution là aussi des pouvoirs, comme dans d'autres sphères, et qui peut sembler parfois rude pour les écrivains.
Ce sont des sphères qui se touchent, et on le sent très fort dans ce livre à travers les différents personnages. Et la sphère politique arrive très proche de celle de la culture, cinéma, monde de l'édition. Et puis il y a le Festival de Cannes à un moment donné, par rapport à l'adaptation de ce livre au cinéma. Et là, on arrive dans une autre arène, où il y a aussi la guerre par d'autres moyens, où il y a l'expérience des castes, et vous dites « Cannes est une humiliation permanente ».
Oui, j'avais vraiment envie d'entraîner mes lecteurs dans les coulisses du Festival de Cannes, qui sont c'est assez méconnu. Donc là, je l'entraîne dans la réalité sociale, parce que c'est vrai qu'on voit souvent Cannes, les images très glamour des actrices qui montent les marches. C'est quand même le haut lieu du cinéma, ça il faut le rappeler. Donc le cinéma est l'art majeur à Cannes, mais il y a aussi après toute cette économie, hein, évidemment, les marques doivent être présentes. Et donc Marianne se retrouve dans cet univers où elle se sent complètement perdue, parce que c'est quand même la valorisation aussi du star system.
Et même si on est là, il faut avoir les bons cartons, il faut avoir les bonnes entrées, oui, pour les bonnes soirées, pour les bonnes projections. Et donc il y a toute une série de codes et de hiérarchies qui se recréent. Finalement, tout ça, on se dit cinéma, politique, édition ou autre, ou même les relations amoureuses, c'est du soft power. On n'est pas dans le vrai pouvoir. On est dans tout ce qui est autour. autour, mais qui finalement va constituer ce qui va se révéler visible pour les gens, à savoir le pouvoir et la place de gens puissants.
Oui, tout ça, tous ces mondes sont extrêmement connectés. C'est aussi ce que raconte le livre, comment le monde du cinéma est lié au monde de la littérature, à la politique. Et puis voilà, ça m'intéressait aussi de confronter ces personnages dans des univers où ils allaient être quand même extrêmement fragilisés. On les voit dans toute leur puissance, mais aussi dans toute la fragilité de leurs conditions.
Et finalement, la vraie guerre par d'autres moyens, c'est celle contre soi-même et contre l'alcool, notamment dans le cas de Dan Lehman. On n'aura pas forcément le temps d'en dire grand-chose, mais de se dire que cette guerre-là, on la gagne très rarement.
Oui, c'est un livre qui parle beaucoup des addictions, de la dépendance, pas seulement d'ailleurs à l'alcool, comme c'est le cas pour Lehman, mais aussi aux antidépresseurs,
au pouvoir.
Tous les personnages ont une forme de dépendance pour supporter la difficulté de vivre.
Ça s'appelle La guerre par d'autres moyens, c'est signé Karine Thuil, c'est publié chez